Soft Power, Frédéric Martel. This is why I'm hot. This is why I'm hot.
France Culture, bienvenue donc dans Soft Power, le magazine des industries culturelles et du numérique en direct jusqu'à 20h30. Nous avons choisi ce soir, on le fait rarement, c'est même la première fois en ce qui me concerne, de nous intéresser durant cette émission à Radio France, c'est-à-dire un peu à nous-mêmes, puisque France Culture fait partie du groupe Radio France. Et mon invité ce soir est Sybille Veil, la présidente de Radio France. Bonsoir madame.
Bonsoir Frédéric Martel, bonsoir à tous nos auditeurs.
Il y a trois chroniqueurs, on y revient. Alors il y a un peu plus d'une année que vous présidez Radio France, et au nom donc de toute l'équipe de France Culture, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation en direct. Vous êtes, je l'ai dit, notre invité ce soir, mais aussi notre présidente. Situation d'interview peu banale, car nous sommes inévitablement jugés partis, donc naturellement, disons un peu, comment dire, en conflit d'intérêts potentiels. Alors pour cette raison même, j'ai choisi d'organiser cette émission ce soir comme un club de la presse avec trois journalistes extérieurs et indépendants, du moins on espère. Vous serez donc interrogé, Sybille Veil, ce soir par Amaël Guiton de Libération. Bonsoir Amaël.
Bonsoir.
Emmanuel Paquet de L'Express. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Je parlais d'indépendants.
J'ai noté.
Et Gilles Fontaine de Challenge. Bonsoir Gilles.
Bonsoir Frédéric.
Bonsoir aussi à Zoé Sfez qui est comme chaque dimanche avec moi.
Bonsoir Frédéric.
Cet entretien sera organisé en quatre grandes parties. Le constat d'abord, Radio France dans la transition numérique, votre projet pour Radio France ensuite, le budget, on s'étendra et on reviendra sur le budget. Enfin, les antennes et les orchestres, des questions disons un peu plus sectorielles. Toujours au sommaire de cette émission à 20h, l'invité innovation. Ce soir avec vous, Zoé Sfez.
Thierry Poibeau, il est chercheur au CNRS. Il publie chez Odile Jacob Babel 2.0. Où va la traduction automatique? On avait envie de l'inviter parce que la traduction automatique est au cœur d'un bon nombre de technologies dont nous parlons souvent ici dans Soft Power. Et notamment aussi au cœur de toute la génération d'objets connectés. Pourquoi pas de la radio de demain, les podcasts de Radio France dans 10 ans? Pourra-t-on les écouter quasiment en direct en chinois? Voilà, c'est une des questions qu'on évoquera avec lui.
20h10, numérique comme chaque dimanche, nous parlerons ce soir de jeux vidéo avec nos trois chroniqueurs qui seront restés avec nous. Voilà pour le sommaire de cette émission Soft Power ce soir. Cette émission est réalisée par Anna Holweck avec en régie Clément Daté. Soft Power, c'est aussi sur les réseaux sociaux, mot-clé Soft Power, et en podcast chaque semaine sur le site de France Culture, sur iTunes et sur l'application podcast de votre smartphone. Soft Power jusqu'à 20h30 sur France Culture en direct. Radio France est en mutation, que l'on parle de nouvelles ambitions comme la direction, de nécessaires économies comme le gouvernement, de transformation numérique comme les professionnels ou de crise comme les syndicats. Tout le monde semble d'accord sur ce diagnostic. Radio France est à un tournant de son histoire, en cours de mutation, une mutation inédite par son ampleur du fait principalement du numérique. Sybille Veil, nommée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel public en avril 2018, préside donc depuis un peu plus d'une année Radio France, le groupe dont France Culture fait partie, ainsi que France Inter, France Info, France Musique, les stations locales de France Bleu, FIP, le MOUV, mais aussi les deux orchestres nationaux de Radio France, l'Orchestre Philharmonique et l'Orchestre National de France, sans oublier le chœur et la maîtrise de Radio France. Avec un budget de l'ordre de 660 millions d'euros par an, dont près de 90% de redevances, disons de contributions à l'audiovisuel public pour faire simple, financées par les Français, Radio France connaît des succès d'audience importants qui sont traduits notamment par le fait que France Inter est devenue récemment la première radio de France. Leader incontesté des podcasts avec plus de 60 millions de téléchargements chaque mois, Radio France semble avoir réussi une étape décisive de sa transition numérique. Notre chaîne France Culture en est une bonne illustration, tout comme d'une autre manière la version télé et surtout internet de France Info co-créée avec France Télévisions. Alors en dépit de ces succès d'audience indéniables et d'un budget à l'équilibre, Radio France est aujourd'hui pressée par sa tutelle, c'est-à-dire le gouvernement, de faire encore plus d'économies. À l'intérieur de la maison de la radio, les syndicats s'interrogent sur cette logique qui consisterait à déshabiller Radio France pour rhabiller France Télévisions, dont les audiences sont, disons, c'est un euphémisme, un challenge, et les budgets en déficit structurel. la présidente de Radio France, Sybille Veil, qui vient de présenter son projet stratégique à l'horizon 2022 et a été auditionnée cette semaine par le Sénat et par l'Assemblée nationale, évoque le chiffre de 60 millions d'euros d'économies à faire sur 3 ans, dont 20 millions de baisse de la contribution publique, 20 à 25 millions d'augmentation naturelle des charges, notamment des salaires, et 20 millions d'investissements numériques qui sont, selon elle, indispensables. Ces chiffres sont parfois contestés par les syndicats ou ce matin encore par une enquête de Laurent Mauduit dans Mediapart, lequel dénonce, je cite, « la volonté de l'État de mettre l'audiovisuel public au régime sec ». Un plan de départ volontaire est avancé qui pourrait concerner entre 270 et 390 postes pour l'atténuer, une réorganisation du temps de travail ainsi qu'une diminution du nombre de jours de congé pour les salariés sont également évoqués. À cause de ces propositions de la direction, l'intersyndicale de Radio France, qui dénonce un projet inacceptable ou parle d'asphyxie du service public, a déposé un préavis de grève pour ce mardi 18 juin. Le souvenir de la longue grève du printemps 2015 qui avait paralysé les chaînes est dans toutes les mémoires. Face à cette situation, dont on peut contester tel ou tel point, mais guère le diagnostic d'ensemble, sur cette mutation en cours, quel projet pour Radio France pour les années à venir? Tel est le sujet de notre émission ce soir, avec comme invité précisément, je l'ai dit, Sybille Veil, présidente de Radio France. Bonsoir, madame. Avant de commencer cet entretien, j'aimerais juste vous poser une première question, disons un peu de fond, une question qui va relier un peu toutes les autres. Vous présidez Radio France depuis un petit peu plus d'une année, c'est-à-dire l'ensemble des radios de service public en France. Qu'est-ce que pour vous, une radio publique, une radio de service public, une radio avec une mission de service public?
Alors le service public, c'est ce qui, pour l'ensemble des salariés qui travaillent dans cette maison, constitue ce supplément d'âme qui fait qu'ils sont tous très engagés pour ce média. Et que cela s'entend sur nos antennes, puisque nous avons des succès d'audience que vous avez rappelés, plus de 15 millions de personnes qui nous écoutent chaque jour, et qui nous écoutent parce que nous sommes une proposition différente, alternative, qui porte des valeurs de service public au sein d'un univers de médias dont vous avez rappelé qu'il est de plus en plus numérique. Et parce qu'il est plus numérique, il ne doit pas être pour autant ni déshumanisé, ni être mené uniquement par de grands acteurs qui ont une logique de globalisation et par là même d'uniformisation.
Donc là, vous faites référence aux GAFA, Google, Apple, Facebook,
exactement,
etc.
Tous ces grands
Spotify,
acteurs.
Spotify, Netflix.
Ces grands acteurs qui sont dominants aujourd'hui, sur lesquels les Français s'informent, sur lesquels certains Français passent une grande partie du temps qui est consacré avant aux autres médias. Et donc c'est important que, en tant que service public, on prenne la mesure de cette évolution des usages pour continuer à toucher les Français et à leur présenter une offre d'information qui soit fiable, une offre culturelle qui soit pas uniforme, mais qui reflète la diversité de la création en France, pour qu'on soit capable de porter l'actualité, de donner du sens, à décrypter en mettant en perspective ce qui se passe chaque jour avec le monde des idées, du savoir, de la connaissance. C'est autant de différences, de particularités qui s'entendent quotidiennement sur une antenne comme celle de France Culture et sur l'ensemble des antennes de Radio France. Et c'est cette mission-là que je souhaite développer dans le monde qui évolue, avec l'usage qui évolue, et c'est le sens du projet que j'ai présenté pour Radio France pour les prochaines années.
On va revenir sur ces différentes questions, mais peut-être un autre point transversal, celui du numérique. Pour vous, qui êtes à Radio France d'ailleurs depuis un moment, avant même d'en avoir pris la présidence, vous voyez le numérique à envahir littéralement toutes nos chaînes, nos stations, nos missions. Vous le voyez comme un ennemi ou comme une opportunité?
Ce qui s'est produit ces dernières années a montré que le numérique est une opportunité considérable pour le média radio, parce que le média radio, quelque part, a des codes très proches du numérique, d'agilité, d'interactivité, de présence en mobilité. Donc on sait très bien interagir et être présent sur ces nouvelles plateformes. Et c'est la raison pour laquelle ces dernières années, grâce au numérique, on a pu faire entendre des programmes comme ceux de France Culture, par exemple, qui sont extrêmement podcastés. Et cela a nourri également l'écoute de nos chaînes en faisant connaître à des gens qui n'écoutaient pas forcément nos chaînes ce qu'on sait faire. Et ça a donné envie à de nouveaux auditeurs de nous écouter. Donc pour pour moi, c'est une véritable opportunité. Une opportunité aussi de créer. Et on sait que le service public a toujours été un média innovant et créateur. Et ça nous ouvre de nouvelles fenêtres d'exposition, de création, dont on a su tirer parti ces dernières années. Il faut qu'on continue d'avoir cette longueur d'avance qu'on a réussi à avoir en étant les premiers à faire des podcasts natifs, en étant présents sur les enceintes connectées et en tirant tout le profit de cette nouvelle révolution sur le numérique qui est en train de naître, qui est une révolution audio. Pourquoi audio? Parce qu'avec le développement des enceintes connectées, dont on voit que dans d'autres pays comme aux États-Unis, elles commencent à être très présentes dans la vie des foyers américains, elles se développent de plus en plus en Europe et notamment en France, parce qu'avec la commande vocale, le son devient un élément important du numérique et un média comme nous, qui est un média du son, doit pouvoir tirer parti de cette révolution pour apporter des réponses demain dans l'univers audio-numérique qui est en train de se créer.
France Culture, 19h11, vous êtes dans Soft Power. Sybille Veil est présidente de Radio France, notre invitée. Ce soir, trois journalistes ainsi que Zoé Sez vont vous interroger ce soir, Sybille Veil, autour de quatre parties. La première, le constat, au fond, Radio France dans la transition numérique. Emmanuel Paquette de l'Express.
Oui, quand on regarde aujourd'hui le bilan 2017, parce que le bilan 2018 n'est pas encore accessible, on voit que le budget global de Radio France en 2017, c'était 656 millions d'euros. Avec une contribution de l'audiovisuel public, donc de l'État via la redevance de 577,8 millions d'euros, et surtout des ressources propres que vous avez développées de 78,2 millions d'euros, donc c'est à peu près 12% du budget. Dans ces ressources propres, on retrouve la publicité, qui aujourd'hui est autorisée sur certaines antennes de Radio France, qui représente 48 millions d'euros, donc c'est une grosse part de ces 78 millions. Et à côté de ça, la billetterie, on en reparlera un petit peu plus tard avec les orchestres, donc c'est 3,5 millions d'euros en 2017, avec de plus en plus de représentation de ces orchestres-là pour augmenter justement le chiffre d'affaires de la billetterie. Mais étrangement, vous parliez du numérique, un chiffre d'affaires qui reste relativement faible, 2,5 millions d'euros en publicité numérique. Qu'est-ce que vous comptez faire pour développer ça dans un contexte tendu, comme on l'a rappelé précédemment, avec des économies à faire?
Alors, notre chiffre d'affaires publicitaire doit nous permettre de résoudre une partie de l'équation qu'on a devant nous, puisque ça a été rappelé. On a une réduction de la ressource publique qui s'accompagne aussi de la hausse courante de nos dépenses. Et quand on fait la somme des deux effets, c'est 20 millions plus 20 millions, donc ça fait 40 millions d'euros d'économies à trouver. Et donc, pour pouvoir avoir une trajectoire qui permettent de construire un avenir pour l'entreprise, il y a une partie de cette trajectoire que nous allons faire en essayant d'augmenter nos ressources propres dont vous avez rappelé le montant aujourd'hui, qui est un montant très limité puisque c'est autour de 10% de l'ensemble de nos recettes, de notre budget. La publicité sur nos antennes est restée limitée en volume, mais je ne tiens pas du tout à ce que ça augmente. Au contraire, nous sommes un service public, il faut qu'il y ait une vraie différence par rapport aux autres offres, et c'est normal, sur le numérique. Le simple développement de la présence de nos contenus doit assurer une augmentation et une dynamique positive des ressources publicitaires que nous allons percevoir sur le numérique. À côté de ça, il y a d'autres développements qui doivent nous permettre de développer des recettes autour, par exemple, des différentes antennes sur France Culture. Les éditions de France Culture, comme France Culture Papier, par exemple, permettent à la fois de rapporter des recettes tout en développant l'offre de France Culture, la faisant connaître à un large public, en valorisant ce qui est fait sur les antennes de France Culture. Donc ça, c'est quelque chose de positif qui doit contribuer à la trajectoire financière que nous avons à relever dans les prochaines années.
Gilles Fontaine de Challenge.
Bonsoir Sybille Veil. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu une idée de votre vision pour cette grande et belle maison? Alors on a longtemps cité l'exemple de la BBC, on continue que ce soit pour Radio France ou pour France Télévisions à citer l'exemple britannique. On pourrait aussi citer l'exemple de la RTBF qui ces dernières années a procédé à une vraie révolution et aujourd'hui procède véritablement par flux et distribue ses différents contenus en fonction de leur meilleure destination, que ce soit l'image, le son, le podcast, etc. On pourrait encore citer même l'exemple américain de NPR, pourquoi pas du mécénat. Dans cet environnement extrêmement contraint, réglementaire, concurrentiel, le digital, etc., comment est-ce que vous voyez l'avenir de Radio France et est-ce que vous avez d'ailleurs rencontré tous ces gens-là, que ce soit en Angleterre, en Belgique ou aux États-Unis?
Sont-ils des modèles pour vous, en fait?
Tous les acteurs que vous citez sont confrontés aux mêmes contraintes que nous, à savoir une baisse de leurs ressources, un univers de médias qui est confronté à une véritable crise de confiance. Et pourquoi une crise de confiance? Parce que ce qu'on voit se développer ces dernières années sur le numérique, avec le développement des réseaux sociaux, la multiplicité des contenus, il y a une vraie diversité, et pourtant les citoyens ne savent plus si ce qu'ils trouvent sur Internet, ils doivent le croire, ne pas le croire, donc il y a une véritable défiance qui s'est instaurée et qui est questionnée, qui conduit à questionner aussi les médias traditionnels. Donc il y a cette crise de confiance également, et donc dans ce contexte, nous partageons nos stratégies. Moi, j'étais par exemple à Séoul en octobre dernier avec l'ensemble des grands médias publics étrangers. Mondiaux, il y avait aussi bien des Indiens, des Asiatiques, des Européens. Les Européens, j'y côtoie fréquemment, d'autant que je préside l'association des médias francophones publics. Et notre principal enjeu aujourd'hui, c'est de continuer à jouer notre rôle dans un environnement qui a profondément changé. Ce défi est avant tout éditorial. Comment est-ce qu'on continue de jouer ces missions fondamentales qui sont l'information de nos publics, que sont la rendre accessible la culture et l'ensemble des cultures, puisque c'est à la fois rendre accessible à tous la culture patrimoniale, mais également soutenir la création contemporaine qui va nourrir l'héritage de ceux qui viendront après. Ces missions-là sont des missions qui sont extrêmement importantes. C'est aussi la proximité dans un monde qui se globalise avec un village planétaire qui est devenu quelque part une ville globale. Comment est-ce qu'on continue de parler aux gens dans leur environnement, de leur identité, de leur culture proche? Donc ce sont des missions qui sont devenues encore plus importantes aujourd'hui face justement à cette globalisation culturelle que nous connaissons. Et tout notre défi, c'est continuer à jouer ce rôle différent tout en sachant répondre à l'évolution des usages. Cette évolution des usages, c'est que le temps consacré aujourd'hui aux médias est à peu près identique à ce qui était consacré il y a quelques années, mais simplement on est concurrencé par des usages nouveaux, par radio, des plateformes, y compris la radio. On est concurrencé par exemple sur la musique par l'écoute des plateformes de streaming musical. On est concurrencé aujourd'hui par l'apparition de nouveaux acteurs qui également développent des offres de contenu audio. On est concurrencé par la multiplication des séries, par de nouveaux médias. Et donc, il faut qu'on arrive à faire valoir notre différence avec un contenu qui continue à séduire nos publics. Et l'évolution de nos audiences montre que sur cette partie éditoriale, aujourd'hui, Radio France, avec ses différentes chaînes, inspire confiance à ses auditeurs. C'est produire des contenus qui sont écoutés chaque jour. Il faut qu'on continue cette évolution, il faut qu'on continue à s'adapter aux nouvelles demandes, aux nouveaux supports d'écoute. Et c'est un travail quotidien dans lequel on est engagé depuis plusieurs années, avec succès, mais c'est une avance qui est fragile. Et on a vu par le passé que de nombreux acteurs qui à un moment donné étaient en position forte, s'ils n'ont pas vu comment le contexte évoluait, ont très rapidement
Ils ont même disparu.
Mais est-ce qu'il faut une refonte de l'organisation? Est-ce qu'il faut une révolution? Ou quel est votre avis là sur cette question-là? Est-ce qu'il faut effectivement un choc comme ça a été le cas en Belgique avec la RTBF?
Alors l'RTBF a connu ces dernières années des plans d'économie successifs importants qu'ils ont réussi à relever tout en se modernisant et se transformant. Ils sont dans un environnement différent puisque la RTBF rassemble à la fois la télévision et la radio. Je pense que on est dans une compréhension beaucoup plus mature de ce qui se passe sur le numérique. Et ce que je constate, et notamment l'évolution de la BBC est tout à fait frappante à cet égard, la BBC a séparé l'écoute de ses contenus audio de la vision de ses contenus télévisés, en développant récemment une application dédiée à l'audio autour de BBC Sound. Parce qu'on se rend compte que chaque média a un usage spécifique et qu'il ne faut pas écraser le son avec l'image. Et d'ailleurs, nombre de nos auditeurs nous disent fréquemment on voudrait avoir plus de contenu audio tourné vers les enfants, vers les jeunes, parce qu'on est dans une société où, pour beaucoup de publics, la vidéo écrase le reste des contenus et on est saturé par les images. Donc c'est important de garder une spécificité du son. Et Radio France, avec ses différentes antennes, son cœur de métier, c'est le son, et cette spécificité, elle doit la garder. Ça, c'est un point qui est extrêmement important parce que, encore une fois, comme je le rappelais tout à l'heure, on a une véritable révolution autour du son. Et donc, on doit pouvoir répondre à cette demande nouvelle de contenu audio.
Ça tombe bien, ce soir, il y a 7 caméras dans ce studio, mais vous n'êtes pas filmé. Donc, ça nous permet de garder le son. Amel Guiton de Libération.
Alors, Frédéric le rappelait en introduction, vous avez annoncé un plan d'économie de 60 millions d'euros d'ici 2022, ce qui est quand même très conséquent. Ça apparaît très paradoxal, justement, parce qu'on est dans un moment de bons résultats d'audience, de retour à l'équilibre financier, etc. Donc, est-ce que, d'une part, est-ce que vous défendez suffisamment, finalement, les intérêts de cette maison face à l'État actionnaire qui baisse sa dotation?
Vous avez fait une grève de la faim au ministère de la Culture, etc.
Est-ce que quid de certains choix stratégiques, puisque par exemple le rapport de la Cour des comptes, qui n'est pas à attendre avec cette maison, hein, rappelle qu'il y a eu des surcoûts conséquents, par exemple, de la mise en place de France Info TV. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi quand même un problème de méthode, puisqu'on voit là aujourd'hui que c'est l'ensemble des organisations représentatives qui appellent à la grève le 18 juin, en parlant de politique du fait accompli et en ayant manifestement le sentiment de se retrouver le couteau sous la gorge, en résumé?
On a un effort d'économie qui ne résume pas l'ambition du projet que j'ai présenté la semaine dernière pour Radio France. L'effort d'économie, ça a été rappelé, il y a une baisse de la ressource publique qui sera de 20 millions d'euros d'ici 2022. Il y a également la nécessité pour cette entreprise d'être dans une trajectoire qui lui permette de ne pas enchaîner plan d'économie sur plan d'économie en ayant des ressources qui augmentent au rythme de ses dépenses. Comme toute entreprise, nous avons des dépenses courantes qui augmentent et donc on doit pouvoir développer des recettes qui permettent d'y faire face. Enfin, on a également une ambition extrêmement forte pour cette entreprise, et c'est celle de réussir cette mutation dont on parle depuis les débuts de l'émission, cette mutation des supports, des modes d'écoute de l'audio, pour faire que Radio France, qui est aujourd'hui le premier groupe de radio en France, soit demain le premier média audio en France. Et ça, ça veut dire faire évoluer nos productions, pour que quand on produit une émission pour la radio, on se met en capacité de faire en sorte qu'elle puisse ensuite être éditée sous différents formats sur des contenus numériques. Chaque plateforme sur laquelle on est publié nous oblige à adapter notre contenu. Quand on va sur une enceinte connectée, il faut qu'on adapte notre contenu. Ce sont autant de dépenses supplémentaires que nous devons financer pour pouvoir continuer à parler aux Français et à être écouté sur les supports qui seront les supports d'écoute de la radio demain. Et il faut qu'on le relève, ce défi-là. Et je pense que les investissements qui sont à faire dans les prochaines années sont incontournables. Et c'est le bon moment pour les faire, puisqu'on a su montrer qu'on était innovant ces dernières années. On doit continuer à garder cette avance pour pouvoir être encore plus innovant dans les prochaines années. Et je vais vous donner mon sentiment personnel. Moi, je suis arrivé à Radio France en 2015, 2 mois après la grève qui avait duré 28 jours, qui avait été une grève absolument historique. Et j'ai vu cette maison, en 4 ans, à la fois réussir à faire la trajectoire d'économie qu'elle avait alors à faire et qui avait conduit à cette grève historique. Elle a réussi à le faire sans que cela handicape ses résultats d'audience, puisqu'elle n'a jamais eu des audiences aussi élevées qu'elle en a aujourd'hui. Je rappelle le chiffre, plus de 15 millions d'auditeurs chaque jour. Ensuite, elle a réussi à innover sur le numérique. On est également le premier média radio écouté sur le numérique. Il y a plus de 2 millions de personnes qui nous écoutent chaque jour sur le numérique. Elle a réussi ces innovations-là et elle a réussi malgré la trajectoire d'économie puisque nous avons réussi à passer d'un déficit qui était prévu en 2015 de 20 millions d'euros à un résultat positif en 2018. Donc cette maison a cette capacité incroyable et je suis certaine que le projet que nous avons présenté permettra encore d'accompagner l'évolution dont cette maison est capable. Et nous allons poursuivre les discussions avec les partenaires sociaux dans les prochaines semaines pour, au-delà des questions de posture, rentrer dans les sujets de fond, être pragmatique, et je le serai aussi, pour pouvoir présenter l'ambition qui est dans le projet que nous avons pour Radio France. C'est un projet avant tout éditorial. Comment est-ce qu'on remplit notre mission d'information dans un monde où il y a une prolifération de fausses informations, où il y a un besoin d'éclairer l'actualité du décryptage, par de l'investigation, par de nouveaux formats qui permettent de toucher les plus jeunes. Il y a un besoin aussi de continuer à soutenir la diversité culturelle sur nos différentes chaînes, sur France Culture et évidemment sur toutes nos chaînes musicales, puisque celles-ci contribuent à faire en sorte qu'il y ait une scène musicale française qui soit dynamique et qui ait du succès. C'est aussi l'offre que nous proposons pour les jeunes au travers d'une chaîne comme Move. Donc toutes ces offres éditoriales font le cœur de notre projet et ce que je souhaite, c'est qu'elles continuent à répondre aux attentes des Français, à leur faire des propositions qui soient différentes de celles que les Français peuvent écouter ailleurs. Et ma plus grande satisfaction, ça a été cette année lorsque nous avons lancé une consultation sur Internet, Ma Radio Demain, où les réponses faites à la question « Comment voyez-vous Radio France ? Est-ce que Radio France est différente des autres radios ?» 83% des personnes qui ont répondu ont dit que nous avions des antennes qui étaient différentes des autres radios. Et bien, il faut qu'on continue d'avoir cette différence-là, de l'assumer et de la diffuser auprès du plus grand nombre.
Une question de Zoé Sfez.
Oui, parce que vous l'avez rappelé, donc, dans ces 60 millions dont on parle, il y a les 20 millions d'économies de baisse de la ressource publique, 20 millions d'augmentation des charges courantes et 20 millions que vous voulez investir dans le numérique. Évidemment, on va y revenir à votre projet pour Radio France. Mais tout ça aussi dans un contexte, on l'a dit, de rapport avec la tutelle. Il y a une réforme de l'audiovisuel qui est en cours. Vous avez évoqué, et Gilles, avec vous, les exemples anglais. On pourrait parler de l'exemple allemand. Nous, on est quand même sur un mode de financement assez bizarre et hybride en France, puisqu'on a cette redevance qui était indexée sur la taxe d'habitation. La taxe d'habitation a disparu. Il y a une réforme en cours. Est-ce que c'est pas aussi compliqué de penser le futur de cette maison sans savoir comment l'audiovisuel public sera financé demain ? Quelle est la nature de vos échanges avec la tutelle là-dessus ?
Sur la pérennité notamment des ressources et l'idée que les coms ont parfois, c'est-à-dire les contrats d'objectifs et de moyens, peuvent parfois changer au cours de la durée alors qu'ils sont censés être signés pour plusieurs années.
Alors Radio France, comme les autres médias audiovisuels publics, est financée, vous l'avez rappelé, par une redevance. C'est une taxe qui est affectée, ce qui veut dire que par rapport à beaucoup d'autres organismes publics qui sont dépendants de discussions annuelles sur leur budget, voire d'ajustements en cours d'année, on a une vision sur plusieurs années de nos ressources. Il est vrai que par le passé, parfois, le contrat qui nous liait à l'État n'a pas été respecté. Il se trouve que aujourd'hui, nous avons une vision jusqu'en 2022. Ce qui veut dire que le jour où cette trajectoire s'achèvera, ça sera concomitant avec les élections qui, dans le cadre desquelles les Français donneront à la France un nouveau
exécutif.
Un nouvel exécutif. Donc, jusqu'à la fin de 2022, on devra avoir une trajectoire qui est stable. Pour moi, c'est un élément fondamental parce qu'on a besoin de visibilité pour construire une stratégie. Et aujourd'hui, on voit que l'évolution extrêmement rapide de notre environnement nous oblige à avoir une stratégie extrêmement forte. Il y a beaucoup d'autres médias autour de nous qui sont engagés dans des efforts d'économie très importants parce que les recettes publicitaires dont ils dépendent sont en érosion très forte à cause de l'évolution de cet environnement. Donc quelque part, en tant que
on a de la chance.
À titre d'exemple, la BBC, c'est 8 ans. Certaine. À la BBC, c'est une redevance avec un plan sur 8 ans. Et en Allemagne, c'est une redevance qui est un impôt payé par tous. Et je crois que la visibilité est sur 9 ans. Donc finalement, par rapport à nos deux voisins européens les plus forts, on a moins de chance qu'eux.
Eh bien, à l'occasion de la réforme de la redevance qui viendra, puisque vous l'avez dit, la suppression de la taxe d'habitation va obliger le gouvernement à faire évoluer l'assiette sur laquelle cette redevance est assise. J'espère que les exemples étrangers seront regardés attentivement pour pouvoir alimenter la réflexion sur l'évolution du financement du secteur public audiovisuel, parce qu'on a besoin d'une ressource qui soit stable, et cette stabilité est aussi un gage d'indépendance pour l'audiovisuel public. Et cette indépendance est indispensable pour pouvoir jouer notre rôle, c'est-à-dire notre rôle d'information, mais aussi un rôle d'innovation et avoir la capacité de se projeter dans l'avenir et de continuer d'être créatif et d'être différent de ce que font les acteurs privés.
Emmanuel Paquette de l'Express.
Oui, dans les nouveaux sujets abordés, justement, les évolutions de la radio, il y a la radio numérique terrestre, la RNT, avec maintenant un nouveau format qui a été adapté, donc le DAB+. Il se trouve qu'aujourd'hui, Radio France est impliquée dans cette rupture technologique, mais ça va aussi contraindre à une double diffusion, donc diffuser en analogique comme c'est le cas aujourd'hui, et diffuser en numérique, sans savoir quand est-ce que l'analogique va se terminer, contrairement à la télévision numérique terrestre, puisque là, il y avait une date butoir. Les chaînes savaient quand est-ce qu'elles allaient arrêter de payer une double diffusion, ce qui n'est pas le cas pour la radio. Dans un environnement contraint au niveau budgétaire dont vous avez parlé précédemment, comment pouvez-vous financer la RNT avec un horizon très lointain, et justement on ne sait pas jusqu'à quand une double diffusion va-t-elle être payée, comment vous allez pouvoir financer tout ça?
Que vous défendez par ailleurs
La RNT, je la défends, c'est un choix qui est un choix fort et qui est un choix de stratégie. Un service public doit être accessible à tous les Français. Et donc la diffusion et la distribution est un enjeu stratégique extrêmement fort pour la radio publique. Et
il va falloir qu'ils commencent par changer d'appareil de radio.
Oui,
donc...
mais déjà, je suis convaincue que l'écoute de la radio en direct va continuer d'exister, d'avoir un avenir. Et c'est la raison pour laquelle cette écoute en direct doit être modernisée, notamment en mobilité. On sait que dans la voiture, la RNT va amener un confort d'écoute qui est sans égal avec ce qui existe aujourd'hui en FM, où la radio se met à grésiller quand on fait plusieurs kilomètres. Donc c'est un élément qui est extrêmement important et qui doit permettre de compléter certains réseaux qui ne sont pas présents partout en France. Je pense à France Bleu, à France Info, mais également à une chaîne comme Move, qui est aujourd'hui diffusée que dans 30 villes, ou à une chaîne comme FIP, qui est très confidentielle, puisqu'elle n'est diffusée que dans 10 villes. Donc ça va nous permettre de faire que l'ensemble de nos chaînes soit accessible à tous les Français, de moderniser cette diffusion, qui doit rester une diffusion comme la FM, qui soit gratuite, anonymes, qui ne dépendent pas des opérateurs télécoms, ce qui est en revanche le cas quand on nous écoute via le numérique. Donc là, ça nous permet d'avoir la qualité de l'écoute numérique avec tous les avantages du mode d'écoute broadcast, qui est celui donc de la radio numérique terrestre. Et donc c'est un choix extrêmement fort pour l'avenir.
Gilles Fontaine.
Oui, je voulais qu'on revienne un petit peu sur les ressources. Alors, on a évoqué effectivement le problème de la redevance. Au-delà de la redevance, quelles sont les pistes que vous jugez sérieuses? Quelles sont les pistes que vous explorez? Au-delà de la publicité également, c'est un sérieux problème. J'aimerais aussi d'ailleurs avoir votre avis là-dessus. Plus de publicité, moins de publicité. On sait que les auditeurs aussi viennent, par exemple, à France Inter pour avoir moins de publicité. Si possible, pas de publicité du tout d'ailleurs. Et vous avez aussi évoqué quelques piste un petit peu plus, qui paraissent un peu plus anecdotiques. Les orchestres, c'est pas tellement anecdotique. Il y a pas mal de choses apparemment à faire là-dessus. Vous l'avez mentionné, la location du parking, la formation, etc. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu plus en détail là-dessus?
Juste avant, puisqu'on parle de publicité, j'aimerais vous faire écouter un petit son. C'est une question que c'est suggérée par nos amis de France Inter qui m'ont prié de vous la poser. C'est d'autant plus qu'ils ont déniché cette petite vidéo. On l'écoute et on va en parler juste après. Ça concerne la publicité. En l'occurrence, c'est pas vous, donc c'est pas une critique qui vous est adressée. C'était votre prédécesseur, Mathieu Gallet, qui, à peine nommé, définissait le service public et sa spécificité. Pas ou peu de publicité commerciale. On l'écoute.
C'est justement une de nos spécificités sur Radio France, sur France Inter ou France Info, d'avoir très peu de publicité. Vous savez que c'est un cadre qui est très limité, notamment la publicité d'intérêt général, la publicité des groupes publics. Moi, j'écoute assez souvent, maintenant, je suis obligé, la concurrence. Je peux vous dire qu'on entend vraiment la différence entre France Inter et ce qu'on écoute sur les autres radios. On va pas avoir de publicité.
En volume.
En volume et dans le style.
Dans
Je pense que voilà, on n'a pas de publicité pour la promotion sur les côtelettes d'agneau sur France Inter.
Mathieu Gallet au micro de Patrick Cohen, c'était le 22 mai 2014 sur France Inter. Alors peu après cette promesse, le président de Radio France bataillait contre le gouvernement et contre l'avis du CSA pour une forte arrivée de la publicité commerciale sur France Inter et France Info. Il voulait même la faire sur France Culture et France Bleu selon le CSA. Et désormais, donc, on a de la promotion des côtelettes d'agneau. Alors, ce qui exaspère les auditeurs, on l'a vu. Vous-même, vous n'étiez pas concerné à l'époque. Est-ce que la publicité sur les antennes de Radio France est l'avenir du service public?
Alors, je ne demanderai pas l'augmentation de la durée de la publicité sur nos antennes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, elle est plafonnée avec des niveaux qui sont extrêmement stricts. C'est un maximum de 3 minutes sur les matinales, qui sont les tranches les plus écoutées de nos différentes chaînes, donc entre 7h et 9h. C'est 18 minutes par jour. On est plafonné en moyenne à 18 minutes par jour, et le maximum étant 30 minutes. Il faut savoir que ça n'a rien de comparable à ce qu'on peut entendre ailleurs.
Chez des stations périphériques ou autres.
C'est une vraie différence.
Donc on peut augmenter peut-être leur rémunération en revanche.
En revanche, vous le dites très bien, on a connu ces dernières années des succès d'audience qui sont très importants et c'est normal que le tarif auquel sont vendus ces temps publicitaires très rares, puisqu'ils sont limités, puisse correspondre au succès d'audience que nous avons connu.
Mais il n'est pas du tout garanti que l'État nous autorise à faire ça, parce qu'évidemment ce sont les concurrents privés qui ont tendance à pousser pour que ces montants restent limités.
Parce qu'en valeur, je crois que vous êtes limité aussi. Il y a un plafond de 42 millions d'euros dans cette publicitaire de mémoire.
Aujourd'hui, il y a un plafond en valeur. Tout l'enjeu, c'est de voir comment est-ce que dans les prochaines années, on va pouvoir garder cette limite forte sur le temps d'antenne, tout en rentrant dans une logique économique normale. C'est-à-dire que quand on a un succès d'audience, on peut être rémunéré à un prix qui correspond à ce succès. D'ailleurs, je rappellerai que ces dernières années, on n'a jamais dépassé les montants qui nous étaient demandés, que le CSA vérifie que l'on ne dépasse pas ces durées d'antenne. On ne nous a jamais reproché de les dépasser. Et que on a élargi le nombre d'annonceurs et le type d'annonceurs autorisés à diffuser sur nos antennes des publicités, mais on reste dans un champ qui est limité puisqu'on n'est pas la distribution n'a pas le droit de faire d'annonces, on n'a pas non plus les grandes promotions ne sont pas font pas l'objet de publicité sur nos chaînes.
Donc on garde une spécificité. Vous voulez un déplafonnement des 42 millions d'euros?
C'est une question que je mets sur la table puisque ça doit
donc
permettre
pas plus en quantité mais que ça coûte plus cher. Voilà.
Bah, simplement voilà. Qu'il y ait une juste rémunération du résultat d'audience que nous faisons.
Sur la deuxième partie de la question de Gilles. Alors, concernant les autres
attentes du côté de la publicité, mais sur les autres pistes alors que vous avez...
Moi, je rappellerai simplement que la BBC aujourd'hui, 25% des sources de financement de la BBC sont des sources de recettes propres. Donc ça veut dire que à l'échelle de l'Union européenne, et c'est à peu près comparable dans d'autres médias publics européens, à l'échelle de l'Union européenne, il y a un vrai modèle de médias publics qui passe par un financement qui est à la fois un financement par des taxes affectées et par des ressources propres. La BBC, comment elle se finance? Elle a des revenus qui viennent de la vente de ses formats, de ses séries, de ses productions. Et nous avons énormément de capacités de production à Radio France qui ne sont pas suffisamment valorisées. Je vais prendre un exemple. Les formats audio. Aujourd'hui, les formats audio doivent pouvoir faire l'objet également de commercialisation à l'étranger, auprès de diffuseurs étrangers. C'est une piste que l'on explore. Nous avons également à Radio France...
Auprès de quel type d'acteurs ?
Auprès de radios étrangères, par exemple. Ou auprès de plateformes étrangères qui diffusent des contenus audio payants. Donc on doit pouvoir...
Spotify, par exemple.
Alors ça, c'est autre chose, puisque Spotify est une plateforme qui est présente en France. Donc on est en train de travailler sur les relations avec ce type de plateforme et les...
Abordons cette question brièvement, parce qu'on n'aura pas le temps sinon, mais
importante.
C'est la question de la souveraineté de nos contenus, finalement.
Nos contenus ont une valeur. Donc quand ils sont diffusés sur des plateformes qui ont pour objectif de développer leurs abonnements, leurs abonnés payants, c'est normal que nos contenus ne soient pas utilisés gratuitement comme produit d'appel par ces plateformes-là.
Donc ça veut dire qu'on ne va pas aller sur Spotify, on n'ira pas sur Deezer.
La question est plus large que ça. Ces dernières années, on a une stratégie d'hyper-distribution de nos contenus dans un contexte où le marché de l'audio parlé n'existait pas. Ça veut dire que Spotify et Deezer se sont développés avec des offres musicales payantes. Récemment, ils ont développé des offres de podcasts. Donc ça veut dire que on est face à un marché des contenus de podcasts qui se développent avec une multitude d'acteurs. Et donc, on ne peut pas continuer d'avoir la même stratégie de laisser nos contenus disponibles gratuitement sur le numérique, comme on l'a fait ces dernières années. Ils sont disponibles pour que les particuliers puissent les écouter. Ils sont disponibles pour qu'il y ait de multiples fenêtres d'exposition de nos contenus. En revanche, ils ne sont pas disponibles pour servir à des plateformes qui, avec ces contenus-là, s'en servent pour comme produit d'appel pour leur futur client.
Ça veut dire qu'on va créer, Radio France va créer sa propre application sur tout ça ?
Alors, par ailleurs, Radio France est en train de développer une application que nos auditeurs peuvent télécharger, qui est l'application Radio France, dans laquelle ils peuvent trouver l'ensemble des contenus de nos différentes chaînes, de nos 7 chaînes de radio. Et sur cette application, ils peuvent trouver également les archives, c'est-à-dire les des bibliothèques de contenus qu'on est en train de construire pour que la richesse très forte de tous les contenus passés qui sont trouvés sur nos antennes soit accessible aux Français.
Amaël Guiton.
Donc ça veut bien dire qu'il y a vraiment un changement de stratégie de distribution qui, bon, là émerge en plus à la faveur effectivement de ce conflit avec Magellan qui a donc été lancé par l'ancien PDG de Radio France. Mais il y a vraiment cette idée d'un repositionnement stratégique, parce que par rapport à Apple par exemple et iTunes notamment, les podcasts de Radio France étaient, si je me trompe pas, accessibles.
Ils sont même toujours.
C'est ça. Et depuis longtemps. Donc comment est-ce que finalement vous allez segmenter et décider par quelle plateforme vous allez passer ou non ?
La stratégie évolue aussi au vu des nouveaux acteurs qui sont en train de se développer. Encore une fois, il y a un boom de l'écoute des contenus audio sur le numérique, des podcasts, et pour un groupe comme Radio France, c'est une véritable opportunité. On constate qu'aujourd'hui, précisément 85% des podcasts de Radio France qui sont écoutés sur le numérique le sont sur des plateformes tierces. On ne peut pas s'en satisfaire parce qu'on est un média. Donc on doit pouvoir garder un lien direct avec
le consommateur. Puis on a la masse critique surtout. Donc
Par ailleurs, on a la masse critique. Et donc on a tout pour pouvoir avoir une plateforme avec un nombre de contenus, une diversité de l'offre qui nous permettent d'être demain un acteur de référence. Or, ce qu'on voit, c'est que les auditeurs téléchargeront un nombre limité d'applications. On voit qu'il y aura eu quelques applications qui émergeront sur l'audio, et on veut être dans ces applications-là parce qu'on veut continuer de maîtriser la manière dont nos contenus sont écoutés, dont ils sont recommandés. Et pour ça, on veut vouloir continuer, on veut continuer à jouer notre rôle de média, y compris sur le numérique. Et la plateforme Radio France est un prolongement de nos chaînes. Aujourd'hui, vous avez des chaînes de radio, et le prolongement de ces chaînes, c'est notre plateforme Radio France.
France Culture, Soft Power, Frédéric Martel.
19h43, Sybille Veil, président de Radio France, est notre invité ce soir. Amaël Guiton de Libération, Emmanuel Paquet de L'Express, Gilles Fontaine de Challenge, Zoé Sfès de France Culture vous interroge ce soir, Sybille Veil. Une question d'Emmanuel Paquet.
Oui, on va reparler des travaux, parce qu'aujourd'hui c'est un chantier qui dure. Alors, le chantier devait se terminer à l'été 2018. Finalement, il a été repoussé visiblement au moins à 2022. Le coût initial devait être de 307 millions. Visiblement, la Cour de compte estime qu'au final, il sera de 583 millions. Et qu'aujourd'hui, il vous manque un financement de 211 à 290 millions d'euros à trouver. Et la Cour de compte s'inquiète de savoir où vous allez trouver ces ressources-là. Donc, comment trouver une telle somme pour finir ce chantier ? Et Autre question, est-ce qu'il aurait pas mieux fallu déménager plutôt que rester dans ces locaux et de tout refaire?
Grâce à ce chantier de réhabilitation, Radio France va devenir un lieu de production de contenu audio, mais également multimédia, absolument unique en Europe. Récemment, on a enregistré la musique du film Valérian. À cette occasion, Peter Cobin est venu visiter nos studios et nous a dit qu'il n'avait jamais vu un lieu de production de cette nature-là en Europe, avec une telle diversité de studios d'enregistrement, une telle qualité d'équipement et de compétences techniques. Donc les investissements qui ont été faits ces dernières années sont des investissements qui vont nous permettre d'avoir un lieu absolument unique à la disposition de l'audiovisuel public français. Donc c'est une ressource qui
est considérable. Mais ce que vous voulez dire, Emmanuel, c'est peut-être qu'on aurait pu déménager, donc tout refaire et après revenir. Parce que là, c'est vrai que la maison a très mal vécu. On est ce soir dans un studio, c'est la quatrième fois, je crois, que nous déménageons rien que pour France Culture. C'est un chantier, comment dire, à la fois coûteux et sans fin.
Alors c'est un effort qui est considérable pour tous les salariés qui y vivent, parce que faire des travaux qui...
En même temps que de diffuser la radio.
En même temps qu'on fait du son, c'est quelque chose de tout à fait contradictoire et c'est difficile à concilier au quotidien. Donc c'est vrai que pour les salariés de Radio France, c'est beaucoup d'efforts faits ces dernières années. Mais ces efforts, c'est le sens de mon propos, vont permettre d'avoir, lorsque les travaux seront achevés, un lieu de production absolument unique qui accompagne la modernisation de cette maison puisqu'il s'accompagne à chaque fois d'investissements dans des outils de production radio.
Et sur la question de l'argent,
c'est un coût qui est
comment
très
on le trouve, demandait Emmanuel Paquette.
Alors, le financement de ce chantier a reposé depuis l'origine sur un financement à 70% par l'État, le reste étant financé par Radio France. C'est ce même partage de financement qui est prévu pour les prochaines années. Et donc la trajectoire financière que j'ai présentée la semaine dernière inclut le financement de ce chantier pour les prochaines années. Notre objectif, c'est que fin 2022, le chantier soit achevé pour qu'à partir de 2023, l'ensemble des chaînes de Radio France et toutes les activités fonctionnent sans plus aucune nuisance liée à ces travaux.
Gilles Fontaine.
C'est pas les salariés aujourd'hui. C'est pas les salariés aujourd'hui qui payent le coût de ce chantier, parce que les mesures aujourd'hui d'économie, c'est essentiellement aussi dû à ce chantier qui est beaucoup plus coûteux que ce qui était prévu initialement.
Quand ce chantier a été mis en place, l'État a augmenté la dotation affectée à Radio France pour pouvoir financer ce chantier. Donc on reste sur des dépenses chaque année qui sont intégrées dans le montant de la redevance que l'État a versée à Radio France.
Ce qui veut dire par là, c'est que ça a un peu plombé le budget qui sans doute sinon n'aurait pas toutes ces difficultés.
Alors c'est certain que quand le chantier sera fini, ça nous permettra d'une part d'avoir des recettes nouvelles supplémentaires liées à ce qu'on pourra faire dans l'ensemble des studios dont on ne dispose pas aujourd'hui puisqu'ils sont encore en rénovation. Ça c'est un premier élément et par ailleurs c'est certain que on a aujourd'hui une contrainte très forte puisque plusieurs de nos activités sont hébergées dans des bâtiments à côté de la maison
qu'il
de la radio.
Qu'il faut louer, etc.
Qu'il faut louer, donc ça a un coût financier qui est important.
Gilles Fontaine.
Oui, j'étais resté un petit peu sur ma faim sur l'histoire des podcasts et notamment sur l'histoire de la monétisation de ces podcasts. C'est l'avenir, mais quel est le modèle économique et est-ce que vous pensez que, comme certains le disent aux États-Unis aujourd'hui, il y a probablement une bulle des podcasts qui est en train de se profiler?
Alors, nos podcasts à nous, en tant qu'acteurs publics, les Français payent déjà pour leur production au travers de la redevance. Donc, ils doivent pouvoir continuer d'y avoir accès gratuitement.
C'était une des pistes évoquées par Mathieu Gallet, votre prédécesseur, à une époque. Donc, ce n'est pas du tout celle que vous préconisez, vous.
Ma conviction, et ça je l'ai affirmé à plusieurs reprises, c'est que nos contenus doivent être accessibles et c'est ce qui nous différencie des autres acteurs. Et c'est bien la marque d'un service public de rendre accessible l'ensemble de ces contenus. En revanche, si d'autres plateformes qui ont une logique de modèle payant veulent se développer, elles ne peuvent pas le faire en simplement tirant profit de nos contenus. Mmh. Et je rappelle d'ailleurs, puisque quelqu'un a cité Apple ne présente que 100 000 podcasts de Radio France quand l'ensemble des offres de podcasts de Radio France présentes sur notre plateforme Radio France est plutôt de 1,5 million. Donc il y a une différence qui est absolument réelle. Par ailleurs, il y a une différence entre rendre simplement accessibles nos contenus et se servir de nos contenus pour attirer vers des productions propres qui, elles, sont payantes. Mmh. Et plusieurs plateformes qui se développent sont sur
un modèle
un peu Netflix, comme Netflix, c'est-à-dire ils maîtrisent la relation avec le public, l'auditeur final, et ensuite ils leur proposent leur propre contenu.
Et puis en plus, si on nourrit ce géant, après, il va peut-être nous manger. Enfin, d'une certaine manière, il va
s'autonomiser. Justement, vous avez ces derniers temps pas mal répété vos sorties contre ces géants du web et leur ultra-puissance. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'il faudrait les réglementer, les démanteler, comme certains le proposent ?
Alors, vis-à-vis de ces grands acteurs, ce qui me frappe, c'est que ils maîtrisent absolument toute la chaîne de valeur. Je prends l'exemple des enceintes connectées. Un acteur comme Google maîtrise à la fois le support physique d'écoute, le moteur de recherche, et avec Google News, il fournit aussi une offre de contenu. Ce qui veut dire que nos contenus aujourd'hui, quand ils sont diffusés sur une enceinte comme Google News, qui nous garantit que demain, Google ne va pas faire une offre d'information qui mêlera certains de nos contenus avec celle d'autres médias. Et comment est-ce qu'on pourra s'assurer que pour le public qui écoutera ces enceintes-là, il pourra faire la différence entre ce qui viendra de France et ce qui vient des autres offres de contenu d'information. Donc, l'un des enjeux des années à venir va être de garantir la neutralité des supports de diffusion et le fait que le public, quand il écoute, il sait quelle est la source de l'information qu'il écoute. On peut dire la même chose avec Apple, puisqu'Apple aujourd'hui vend des appareils de téléphone sur lesquels il maîtrise le logiciel d'exploitation. Il maîtrise aussi les contenus qui y sont diffusés. Donc, quand c'est le même acteur qui maîtrise tout, ça...
position d'abus dominante.
C'est une position qui est extrêmement complexe pour les acteurs comme nous qui diffusent des contenus. C'est, pour moi, une question de régulation de réseau. Et cette question de régulation des réseaux, c'est quelque part, on peut faire l'analogie avec ce qui s'est fait dans le secteur des transports ou des télécommunications, où il faut différencier ceux qui ont la maîtrise des réseaux et ceux qui ont l'offre de services. Et donc, nous sommes des offreurs de services. Nous ne maîtrisons pas les réseaux, mais il faut s'assurer que ces réseaux soient neutres. Et donc, que ceux qui maîtrisent les réseaux n'en profitent pas pour...
Donc, ça ressemble à un démantèlement.
Pour faire en sorte que leur contenu soit proposé en priorité. Et pas un démantèlement, mais simplement, il faut s'assurer qu'il y ait une véritable neutralité. La BBC, à l'été 17, quand à l'été 18 plutôt, quand Google a lancé en Europe sa plateforme Google Podcasts, la BBC, comme beaucoup d'autres acteurs européens, a donné son accord pour que ces podcasts puissent être écoutés sur cette plateforme-là. Je venais d'accéder à la présence de Radio France et moi j'ai refusé que nos contenus soient accessibles sur Google Podcasts puisqu'on n'avait pas les contreparties qu'on demandait sur la visibilité, la chronologie de nos contenus. Il se trouve qu'aujourd'hui, quand vous cherchez sur le moteur de recherche Google un contenu de la BBC, vous tombez directement sur Google Podcasts. Et je peux vous assurer que la BBC regrette de ne pas avoir eu la sagesse qu'on a eue à cette époque-là, qui a été de ne pas accepter que nos contenus soient ainsi diffusés sur ces applications nouvelles, puisqu'ils ne maîtrisent plus leur distribution, puisqu'avec le moteur de recherche Google, c'est leur propre plateforme d'écoute de podcast qu'ils privilégient.
Amel Guiton.
Oui, je voudrais quand même revenir juste brièvement sur le budget, puisque vous disiez qu'il fallait sortir des postures. 270 à 390 suppressions de postes, c'est aussi une question de fond. Où est-ce que ça va se faire le plus sentir ? Au-delà du chiffre lui-même qui est déjà significatif. C'est-à-dire s'il faut supprimer des postes, où ?
Les chiffres que vous rappelez sont des chiffres qu'on a mis sur la table des discussions avec les partenaires sociaux dans le cadre d'un équilibre global des efforts au sein de Radio France. Cet équilibre global ne porte pas que sur la réduction des effectifs, il porte sur d'autres changements.
Donc c'est là où vous sortez temps de travail, vacances, etc., en disant du coup il y aura moins de départs si vous acceptez ces conditions-là.
Je vais simplement rappeler une chose, c'est qu'on est une entreprise où on emploie énormément de contrats à durée déterminée pour remplacer les personnes qui sont en congé. Ce qui veut dire que si on planifie différemment, par exemple, le temps de travail, ça doit nous permettre de réduire à la fois cette précarité-là et de réduire le coût que ça a chaque année pour Radio France. Des efforts d'organisation, nous pouvons en faire pour faire en sorte que les économies ne se traduisent pas par une réduction de l'offre éditoriale que l'on propose aux Français. Et moi, mon ambition, c'est vraiment que les offres éditoriales puissent continuer à être ambitieuses et que les économies qu'on a à faire, on les fasse en se réorganisant. Par exemple, en faisant en sorte d'automatiser certaines fonctions, en faisant en sorte d'avoir les bons outils. Ces dernières années, on a fait partir des salariés dans certaines directions, puisqu'il y a, on a eu beaucoup de départs en retraite. On avait une pyramide des âges qui a conduit à de nombreux départs en retraite. Et on a remplacé certains de ces départs, mais d'autres n'ont pas été remplacés. Et se sont traduits par des désorganisations importantes dans un certain nombre de directions. Ce qu'il faut, c'est qu'on arrive à faire en sorte qu'il n'y ait plus de départ sans réorganiser chacune des directions. Et que là où l'on fait des recrutements nouveaux, ça permette d'accompagner les ambitions nouvelles que l'on a pour l'avenir. Et que quand on ne remplace pas les départs, ou quand on a des départs volontaires, puisqu'il y aura des départs volontaires qui sont projetés, vous avez donné des chiffres, ils se fassent à l'occasion de réorganisation. Donc c'est un véritable changement de méthode que j'ai proposé aux partenaires sociaux. À savoir qu'on parle d'abord de réorganisation de l'ensemble de nos directions, pour pouvoir rendre soutenable dans la durée des départs dont je souhaite qu'ils soient volontaires. Donc ce ne sont pas des départs contrats, ce n'est pas un plan social que j'ai présenté, mais ce sont des départs volontaires qui doivent accompagner les réorganisations qui rendront cette maison plus forte pour les prochaines
années. Mais vous avez voulu parler, vous leur avez proposé de parler de méthode. Eux, ils vous ont répondu préavis de grève, ils voulaient parler du préavis de grève pour ce mardi. Donc, chacun est dans son rôle, sans doute, dans ce genre de cas.
Chacun est dans son rôle, mais je pense que le temps est venu de discuter le fond. Il faut qu'on voit effectivement avec les partenaires sociaux qu'est-ce qu'il y a derrière ces chiffres de départ, entre 270 et 390 départs, quelles sont les alternatives qu'on a proposées aussi pour pouvoir limiter le nombre de départs. Et ce qu'on a présenté et qui n'a jamais été présenté avant, c'est de travailler sur l'évolution des compétences et des parcours professionnels. Et d'accompagner ce projet d'efforts importants de formation, puisqu'on propose de multiplier par trois les efforts de formation. Également un projet d'investissement très important, puisqu'on prévoit 25 millions d'euros d'investissement dans des nouveaux outils qui doivent nous permettre d'accompagner cette mutation numérique et qu'on gagne du temps au quotidien dans la production de contenu numérique.
Une dernière question, Emmanuel Paquette.
Oui, justement, pour rebondir là-dessus, quand on regarde, alors ça c'était les chiffres 2017, il y aurait 4161 CDI à la fin 2017, dont 348 CDD. Et quand on regarde la répartition des âges, il y a plus de 2600 salariés en CDI qui ont plus de 46 ans, contre 191 qui auraient moins de 25 ans. Est-ce que ça veut dire que c'est cette population-là, donc les plus de 46 ans, qui va être directement affectée par ce dont vous parliez précédemment?
Les chiffres que vous citez montrent que l'entreprise s'est rajeunie ces dernières années. Il y a eu effectivement beaucoup de départs en retraite. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup d'équipes qui sont dans la force de l'âge, qui sont très engagées, et je souhaite m'appuyer sur ces équipes-là pour construire l'avenir. Contrairement à d'autres médias, tout ce qui passe sur nos chaînes de radio est produit en interne, ça veut dire enregistré dans nos studios, avec des équipes qui, au quotidien, font cette radio en direct.
Et des grands orchestres, notamment.
Et les orchestres, donc la qualité de ce qui passe sur nos antennes tient aux personnes qui travaillent à Radio France aujourd'hui. Donc c'est sur ces personnes-là que je m'appuie, et c'est avec elles que je construis l'avenir. D'où les efforts que je souhaite que l'on fasse sur la formation, sur l'évolution des compétences, sur l'investissement de nouveaux outils pour préparer le média de demain, que l'on doit préparer, parce que l'évolution de notre environnement, elle est réelle. L'évolution des usages des Français, elle est réelle. Le temps qu'ils consacrent aux nouveaux médias, les Français, chaque jour, c'est une évolution qui est constante et qui ne va pas s'arrêter aujourd'hui. Donc il faut qu'on réponde à ces nouveaux usages.
Pour terminer, peut-être une question un petit peu personnelle. L'heure arrive, il est 20h, c'est la fin de cette première partie d'émission. Présider Radio France, c'est plus difficile que vous ne pensiez, plus risqué, plus passionnant? pour vous ?
C'est tout cela à la fois. C'est une entreprise...
Risqué, passionnant et...
C'est passionnant. C'est une entreprise qui vit une mutation qui est considérable, avec des missions qui sont des missions qui lui permettent d'être un acteur qui sert de repère. Et mon ambition, c'est qu'on continue de servir de repère aux Français dans une société qui évolue extrêmement rapidement. Et ça, c'est un défi pour les prochaines années que j'ai envie de relever avec l'ensemble.
Pour résumer, moins de côtelettes d'agneau et plus de podcasts. Ça vous plaît ?
Plus de podcasts, plus de culture, plus d'informations et de l'avenir pour toutes nos chaînes.
Merci infiniment d'avoir été notre invité ce soir dans Soft Power, Sybille Veil, présidente de Radio France. L'émission Soft Power continue dans un instant, la seconde partie de Soft Power. 20h10, le club de la presse numérique, nous parlerons ce soir jeux vidéo. Et dans un instant, Zoé Sfès, brièvement votre invité innovation ce soir.
Thierry Poibeau, auteur de Babel 2.0, où va la traduction automatique ? La traduction automatique, c'est le futur, nous expliquera-t-il, même si on n'y est pas tout à fait encore.
Vous pouvez vous abonner au podcast de Soft Power, disponible gratuitement encore sur iTunes, sur la page de Soft Power, sur le site de France Culture, ainsi que sur l'application podcast de votre smartphone, mais pas sur Spotify, pas sur Deezer, pas sur Magellan, nous verrons. Tout ça à suivre après Kevin Abstract sur France Culture. Non, il n'y a pas de Kevin Abstract puisqu'il est 20h. Il est 20h, c'est l'invité de Zoé Sfès.
France Culture, Soft Power, l'invité de Zoé Sfès.
Bonsoir Thierry Poibeau, c'est une arrivée en trombe dans ce studio. On parlait de contenu radio, de podcast, on parle souvent de ces questions-là, y compris d'intelligence artificielle et d'enceintes connectées, on en parlait à l'instant. Tout cela fait écho au sujet de votre livre, puisque vous êtes directeur de recherche au CNRS, spécialiste du traitement automatique des langues. Et on va parler avec vous de traduction automatique, puisque vous publiez ce livre, Babel 2.0, où va la traduction automatique ? C'est aux éditions Odile Jacob. Alors c'est un ouvrage assez pointu, vraiment à mi-chemin entre la question de l'informatique et de la linguistique, puisque c'est votre travail, qui revient aussi sur l'histoire de la traduction automatique, qui est un concept qui va pas du tout de soi, contrairement à ce qu'on peut imaginer aujourd'hui quand on utilise, si on a 15 ans, on a toujours quasiment connu Google Translation, ce qui n'était pas le cas du tout. Vous expliquez qu'en fait, quand on parle de traduction, tout est relatif, la question de savoir pour qui on traduit, qu'est-ce qu'on traduit, et de toute façon, est-ce qu'il y a une bonne traduction dans l'absolu, d'autant qu'on ne sait pas grand-chose de ce qui se passe du point de vue cognitif chez les humains quand ils traduisent.
Donc c'est ça qui est passionnant dans la traduction, c'est qu'à la fois c'est une tâche évidente pour tout le monde, on voit bien pourquoi on doit traduire et qu'est-ce que ça veut dire traduire, et en même temps on a très peu de connaissances sur, on a beaucoup de mal à évaluer ce qui est une bonne traduction, et même pour un traducteur c'est difficile de déterminer ce qui est une bonne traduction, et effectivement on a très peu de connaissances ou quasiment aucune connaissance sur ce qui se passe dans le cerveau, sur la façon de traduire.
On dit traduttore, traditore en italien, traducteur, le traducteur est nécessairement aussi un traître. Et il y a toute une première partie très intéressante, historique, sur l'histoire finalement de cette discipline, enfin cette discipline, comment est-ce qu'on pourrait le dire, de cet investissement, de cette activité de traduction automatique. Vous le dites, il y a évidemment des acteurs militaires, étatiques, et puis très vite il y a des acteurs commerciaux qui s'en sont emparés. Et en fait, il y a eu un peu trois temps dans cette histoire de la traduction automatique qui fonctionnait relativement mal. Une première qui était plutôt basée sur les dictionnaires, les mots, et sur ce que vous appelez les règles de transfert, c'était quoi l'idée à ce moment-là ?
Donc c'est une idée intéressante, c'est à savoir pour traiter la langue, on a besoin d'avoir de connaissances quasiment infinies sur la langue, et donc de le modéliser dans des dictionnaires, dans des grammaires. Mmh. Et en fait, si je passe déjà à l'étape suivante, ce qui est intéressant depuis ces dernières années, c'est qu'avec des approches statistiques, on voit que c'est plus tellement des règles, et donc ça remet en cause par rapport à ce qu'on disait au début, tout ce qu'on connaît, ce qu'on connaît sur la langue, à savoir que c'est pas obligatoirement des règles, mais la façon dont ça fonctionne dans le cerveau est sans doute plus complexe que ça.
En fait, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'au début, on s'est dit, pour traduire un texte automatiquement, il faut le comprendre, en fait, il faut que le système comprenne le sens, et en réalité, assez vite, on s'est rendu compte qu'il ne sert à rien pour que le système ou cette intelligence, alors on ne parle pas encore d'intelligence artificielle, mais que ce système de traduction automatique, il n'a pas grand intérêt à comprendre ce qu'il est en train de traduire. Il faut qu'il réalise tout ça par intertexte, par comparaison. Vous dites donc du coup que c'est le système statistique qui en fait va puiser dans des répertoires bilingues.
Oui, donc on a eu dès les années 90 et encore plus avec le web. Donc d'abord grâce aux textes du Parlement canadien qu'ils ont traduits et qui sont très bien traduits parce que c'est des textes juridiques entre le français et l'anglais. Donc on a accès à des textes bilingues et grâce au web depuis 20 ou 30 ans maintenant, on a accès à des corpus, donc des ensembles de textes énormes qui permettent de trouver des équivalences entre les textes, donc des équivalences de mots, de voir comment un mot donné est traduit dans la langue étrangère. Et pour donner une idée sur l'anglais ou même sur le français, on a maintenant affaire à des textes de plusieurs milliards de mots dans lesquels on peut puiser.
Alors, parce qu'en fait, c'est ce que vous dites que finalement, vous prenez cet exemple très drôle, cette phrase, l'avocat a livré une plaidoirie au vitriol, vous dites que cette phrase, l'avocat a livré une plaidoirie au vitriol, nous on sait très immédiatement que l'avocat est dans un contexte juridique, que pour un outil de traduction automatique, c'est absolument, c'est un calvaire total cette phrase, pourquoi ?
Pour le traitement des langues en général, parce que un mot comme avocat a deux sens. Livré dans cette phrase-là, il y a rien qui est livré. On n'est pas en train de livrer de la nourriture, mais il y a c'est plutôt dire. Et donc, la traduction va avoir besoin. Si on traduit directement mot à mot par livré ou par avocat, on a besoin de savoir quel sens d'avocat il faut prendre. Et pareil pour livré. Si on choisit une traduction du mot livré en anglais ou dans d'autres langues, il y a des chances pour que la traduction soit inexacte. Alors qu'un humain, ce qui est fascinant, c'est qu'un humain ne se pose même pas la question de savoir pourquoi il y a deux sens dans cette phrase-là.
Et alors justement, vous dites que on était arrivé à un système plutôt correct avec des limites, avec cette analyse statistique et qu'on a passé un pas supplémentaire ces dernières années avec ce qu'on appelle le deep learning. Donc c'est encore toujours de l'intelligence artificielle, on en parle souvent, les fameux réseaux neuronaux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce qu'un outil comme aujourd'hui, par exemple Google Translate, fonctionne?
Tout ce qu'on peut dire, c'est la différence par rapport à la traduction statistique d'il y a quelques années. Donc c'est depuis 2016. En fait, avant, ça fonctionnait à travers des corpus bilingues, donc des ensembles de textes bilingues, dans lesquels on essayait de rechercher, le système essayait de chercher des traductions de mots ou de groupes de mots. Et après, pour la traduction, on devait assembler ces groupes de mots qui ne correspondaient pas obligatoirement. Et donc, on avait des phrases souvent bancales. L'avantage du deep learning, parmi d'autres choses, c'est que c'est d'une part beaucoup plus robuste et surtout, il y a une représentation de la phrase entière qui est faite. Donc, la traduction se fait au niveau de la phrase, ce qui fait qu'on n'a plus ce problème d'assemblage.
Au niveau des mots ou du groupe de mots. Oui. Ouais. Qui a l'air évident, mais qui est en fait quelque chose de fondamental. Pourquoi ? Parce que, en fait, les systèmes d'apprentissage profonds ont une capacité à avoir une capacité de calcul beaucoup plus importante et ont accès à une base de données et arrivent à la gérer beaucoup plus vite.
C'est ça, c'est-à-dire que la puissance de calcul des ordinateurs qui augmente depuis les débuts de l'informatique, font qu'on a atteint actuellement des performances qui permettent effectivement d'avoir une représentation sémantique de la phrase entière, une représentation de la phrase entière, alors que c'était impossible il y a encore quelques années.
Mais alors c'est quoi les limites justement de ces outils de traduction automatique aujourd'hui, par rapport en termes de bons qualitatifs, par rapport aux années 70 par exemple, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'on arrive vers, entre guillemets, de la perfection ou pas du tout ?
Quand on traduit du français vers l'anglais, bon, de toute façon, il y a toujours des erreurs qu'on peut trouver assez facilement. Mais on voit que la traduction est assez correcte, en général. Mais si on a un texte littéraire, on voit que la qualité littéraire du texte, qui fait qu'un texte est littéraire, donc il a un style, des choses comme ça, est encore très mal rendu. Donc c'est une traduction phrase par phrase, assez littérale. Donc la traduction peut être bonne. Enfin, souvent entre l'anglais et le français, sur des textes courants, la traduction va être correcte, mais très littérale. Donc pour les textes techniques, ça peut être correct. Pour les textes littéraires, souvent pas très bon, c'est lisible mais pas très bon. Et sur les textes techniques, quand même, pour nuancer, il y a tout un vocabulaire spécifique dès qu'on est dans un domaine professionnel qui va pas être entré dans la base. Donc tout le travail des personnes qui vendent des logiciels de traduction pour des entreprises, en dehors de ce qu'on voit sur le web, c'est d'adapter avec des dictionnaires spécifiques, des systèmes de traduction spécifiques qui sont adaptés à un métier ou un domaine donné.
Parce que ça, c'est ce qu'on découvre dans votre livre, il y a tout un marché de gens qui vendent de la traduction automatique dans des domaines spécifiques. Évidemment, il y a un énorme appétit des grands acteurs du numérique pour ces outils de traduction automatique. Moi, j'ai découvert en lisant votre livre, ce que je ne savais pas, que Google, mais on peut s'en douter, et Facebook et d'autres achètent régulièrement des startups qui se spécialisent sur ces questions. On en est où et quels sont les horizons ? Parce qu'on a parlé de l'enceinte connectée qui est très présente aujourd'hui aux États-Unis, qui peut l'être même ailleurs. On parle d'outils qui sont essentiellement aujourd'hui en anglais ou en chinois, même si c'est un autre marché avec d'autres types d'acteurs. La question de tous ces objets connectés, à quel point elle est reliée à la question de la traduction automatique aujourd'hui ?
Donc ce qui fonctionne relativement bien, c'est la traduction de texte écrit, ce qu'on connaît sur le web. Le rêve pour beaucoup d'acteurs télécom, c'est ou pas télécom, c'est la traduction simultanée
immédiate.
En parole. Donc oui. si j'étais dans une émission de radio chinoise, je parlerais en français et bon, là, c'est un peu du rêve, mais la traduction se fera en direct et on aurait un rendu en chinois ou dans une autre langue directement. Les enjeux au-delà de ça, c'est par rapport à la diversité des langues, c'est qu'on a des systèmes qui fonctionnent bien sur les langues proches de l'anglais, fonctionnent bien aussi sur l'arabe et le chinois maintenant, parce qu'il y a beaucoup d'efforts de recherche qui ont été faits. Mais quand on prend en compte le fait qu'il y a 6000 langues dans le monde, évidemment, il y a beaucoup de langues pour lesquelles il n'y a pas de système, ou parmi les 100 langues qui sont couvertes par Google Traduction à l'heure actuelle, on peut dire que pour une majorité d'entre elles, la traduction n'est pas très bonne. Donc il y a encore un gros travail à faire sur les langues qui sont moins répandues, moins courantes que le français, l'anglais et d'autres langues comme ça.
Mais justement, dans un contexte très idiot comme celui de l'écoute de la radio, par exemple sur une enceinte connectée, est-ce qu'on pourrait imaginer que des podcasts qui aujourd'hui sont en français soient audibles en chinois à quel horizon, 5-10 ans?
C'est très difficile de répondre. Je pense qu'on en est encore pas tout à fait là. Donc il y a deux étapes parce que, qui sont assez indépendantes pour l'instant, qui sont d'une part la transcription qui va vers l'écrit. Mm-hmm. Donc on passe de la parole à du texte écrit. Et ensuite, on traduit le texte écrit. Et évidemment, vu qu'il y a deux étapes, les erreurs se cumulent. Et je pense qu'on est... Donc il y a des gros progrès qui sont faits et j'aurais beaucoup de mal à dire à quel horizon ça sera vraiment fonctionnel. Mais si entre français et l'anglais, on peut peut-être se dire que dans 5 ou 10 ans, il y a déjà des choses qui existent. Dans 5 ou 10 ans, peut-être que ça marchera relativement correctement.
Vous le rappelez au début, il y a eu une utopie à un moment donné pour justement essayer de s'aliéner cette question de la diversité des langues, de leur contexte, de la manière dont elles procèdent. L'idée d'avoir une espèce de langue universelle qui serait celle par laquelle on passe tous dans la traduction, c'est complètement mort cet idéal-là.
En fait, il y a eu un renouveau de cette idée à travers récemment et j'avais pas compris ce qui se passait quand c'est sorti. Et en fait, c'est que à travers le deep learning, donc les outils actuels, il y a une représentation qui est similaire entre différentes langues. Donc les différentes langues sont projetées sur un même espace sémantique, donc c'est un peu technique, mais cet espace, vu qu'on peut projeter différentes langues dans un même espace, on a une espèce de format multilingue ou unilingue qui apparaît. Et ce qui est un peu fascinant pour un linguiste qui est passé vers la linguistique informatique, c'est que les systèmes qui avant étaient vraiment faits pour le français, sur le français, qui fonctionnaient bien sur le français, maintenant fonctionnent mieux avec des systèmes multilingues, ce qui paraît un non-sens, c'est-à-dire quand on met de l'anglais et d'autres langues dans le modèle sémantique, ça fonctionne mieux que pour analyser que du français. C'est un peu étonnant.
Bon, écoutez, le futur nous le dira. Merci beaucoup. Babel 2.0, où va la traduction automatique? On ne sait pas où elle va, mais en tout cas, on sait qu'elle va bien. C'est votre livre, Thierry Poibeau. Il est paru aux éditions Odile Jacob.
Merci à vous.
Le temps de vous recommander un article. Petit clin d'œil dans cette émission Soft Power ce soir. Eh bien, c'est la une de l'Express. Je ne dis pas ça parce qu'Emmanuel Paquette est resté dans le studio. Une de l'Express sur la culture, un scandale français. Étude intéressante qui montre que l'État dépense 139 euros par francilien pour la culture, mais seulement 15 euros par habitant dans le reste du pays. Un éditorial de Anne Rosincher très riche sur ce sujet et qui permet de comprendre au fond une forme de mouvement des gilets jaunes culturels, on pourrait presque dire, en tout cas des inégalités françaises, y compris en matière culturelle. C'est la une de l'Express ce week-end.
Soft Power, le club de la presse numérique, Frédéric Martel.
Le club de la presse numérique pour terminer Soft Power. On parle ce soir de l'édition de la transition pour le secteur du jeu vidéo, le E3 2019. Alors c'est le plus important événement de jeux vidéo au monde, l'Electronics Entertainment Exposition 2019, nom de code E3 parce qu'il y a 3 E. C'est tenu comme chaque année à Los Angeles et a fermé ses portes ce jeudi. Alors pour la première fois, l'E3 s'est fait sans Sony qui a décidé de boycotter le salon, ce qui laissait théoriquement le champ libre à ses meilleurs ennemis, Microsoft ou Nintendo, mais aussi à de nouveaux entrants comme Google et dans une moindre mesure Netflix. Entre annonces et bouleversements plus structurels du secteur du jeu vidéo, tant au niveau des acteurs que des modèles économiques, retour sur cet E3 ce soir dans le club de la presse numérique de Soft Power avec Amel Guiton de Libération, Gilles Fontaine de Challenge et Emmanuel Paquette de L'Express, les trois chroniqueurs du début de cette émission qui sont restés avec nous. Alors sur le front des les annonces de jeux, la face la plus grand public de l'E3. Qu'est-ce qu'on peut retenir, Emmanuel Paquette ou Gilles Fontaine, de cette QV 2019 ? Gilles Fontaine.
Bon, je démarre, mais vraiment sous le contrôle d'Emmanuel Paquette, qui est le grand spécialiste mondial du jeu vidéo dans ce studio et au-delà. Effectivement, c'était un salon un peu particulier cette année, parce que d'abord, il y a eu beaucoup d'annonces. C'est un salon où il ne se passe pas toujours grand-chose, mais là, Microsoft a annoncé sa nouvelle console de jeu, le projet Scarlett. Sony n'était pas là, mais quand même, tout le monde avait en tête que le constructeur japonais va sortir probablement également l'année prochaine. En général, ces deux-là se collent un petit peu au maillot sa PlayStation 5. Et puis Netflix aussi a fait ses annonces, vous l'avez mentionné, de nouveaux entrants sur ce marché, et notamment dans ce qu'on appelle le cloud gaming, c'est-à-dire non plus des jeux qu'on joue sur des CD ou sur des cassettes, des cartouches, mais sur...
cassettes, comme vous y allez. Oui, vous parlez du Moyen-Âge.
Vous n'avez pas jouer avec des cassettes.
Il y en a au musée Pompidou. Dans les...
Et ben moi, j'ai joué à des jeux vidéo avec des cassettes et c'était très amusant.
À l'époque, vous parliez avec vos petits amis sur Minitel.
Voilà. Et non. Donc redevenons sérieux, parce que le cloud gaming, c'est très sérieux. C'est effectivement un jeu qui se joue, comme on dit, en streaming, c'est-à-dire directement sur les réseaux. On peut le jouer sur plein de terminaux différents, sur son ordinateur, sur le téléphone portable, sur une tablette, etc. Et c'est un marché qui, en 2019, devrait représenter pas loin de 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Donc c'est énorme, c'est pratiquement la moitié c'est des chiffres très sérieux, Emmanuel. C'est à peu près la moitié aujourd'hui, le streaming, le jeu.
Alors là, on a absolument rien compris. Passons à Emmanuel Paquette.
J'ai pas fini. La moitié du marché du jeu vidéo, c'est un marché qui ne se fait non plus sur des supports physiques, donc les fameuses cassettes, mais qui se joue totalement en réseau. Voilà.
Emmanuel Paquette, pour une explication un peu sérieuse.
Non, mais disons que c'est vrai, on est en train de changer de modèle économique. Jusqu'à maintenant, les fabricants de consoles mettaient en place des consoles qui coûtaient très cher. Ça leur mettait du temps à rentabiliser, et du coup, ils se rentabilisaient avec la vente de jeux liés à ces consoles. Là, on bascule dans un autre système, donc où certains acteurs pensent qu'il n'y aura plus de consoles. On pourra directement se connecter via son téléviseur connecté, son iPad, et en ouvrant son navigateur, par exemple avec Google Stadia, on pourra directement jouer à un jeu en ligne. Donc du coup, plus de consoles a priori à acheter, et puis un système normalement par abonnement sur lequel on peut accéder à certains titres. Alors en réalité, ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est que c'est un peu plus compliqué que ça. Il y a eu pas mal de tentatives jusqu'à maintenant qui sont soldées plutôt par des échecs, parce que le modèle économique est très compliqué à mettre en place, contrairement à celui de Netflix qu'on voit aujourd'hui et qui fonctionne plutôt bien pour cet acteur-là. La répartition de la valeur entre le distributeur de ces plateformes, que ce soit Google ou les fabricants de consoles comme Microsoft d'un côté, et de l'autre côté les studios, on n'y est pas vraiment encore. Et on a vu quand même beaucoup d'acteurs mourir, donc Gaikai, OnLive, etc., qui ont été rachetés, notamment par PlayStation. Aujourd'hui, Sony est le premier à avoir lancé un service il y a à peu près 5 ans qui s'appelle PlayStation Now, qui compte aujourd'hui 700 000 abonnés selon Sony. Mais même là-dessus, on s'abonne donc pour jouer à un catalogue de jeux Sony et autres. Il y a à peu près 750 jeux disponibles dans 19 pays. Mais là encore, on peut le télécharger ou jouer en ligne, et la plupart des gens le téléchargent. Donc on n'est pas encore sur le même système que la vidéo à la demande. Et puis Google, qui a annoncé que dès 2020, il y aurait un système équivalent pour pouvoir jouer directement dans un navigateur sur Internet, vient de dire que simplement, il fallait s'abonner au service pour après acheter le jeu. Donc on n'est pas du tout sur un modèle Netflix, on est sur des modèles un peu plus compliqués, avec des modèles économiques qui se cherchent, et surtout avec des problèmes de débit, c'est-à-dire pour pouvoir jouer, il va falloir avoir des très très bons débits. On est sur du 35 mégabits par seconde, c'est-à-dire quand on voit aujourd'hui une connexion ADSL chez quelqu'un d'à peu près lambda, c'est entre 5 et 10 mégabits par seconde. Donc on est loin des 35 mégabits par seconde.
Amel Guiton.
On voit en tout cas qu'il y a quand même une... c'est quand même les grandes manœuvres, hein, manifestement. Et alors, il y a aussi manifestement une espèce de petit concours de montrage de muscles entre Microsoft et Google, puisque Google a dégainé le premier. Moi, de ce que je comprends, c'est qu'il y aura déjà une offre à partir de novembre 2019, en fait, puis une nouvelle avec un accès gratuit possible en 2020. Donc on serait sur une petite dizaine d'euros par mois. mais il faudrait effectivement toujours payer ensuite pour avoir accès au jeu. Et donc Microsoft, dans la foulée, a annoncé le lancement de xCloud en octobre 2019, donc un mois avant. Donc on voit bien là qu'il y a une concurrence assez nette. Alors il y a effectivement Netflix qui arrive dans tout ça, mais moi j'ai l'impression pour le moment qu'on est beaucoup dans
l'adaptation quelque chose d'assez symbolique,
hein, puisqu'on parle effectivement de projets qui accompagnent des grosses sorties de séries type la saison 3 de Stranger Things ou Dark Crystal, mais avec des projets qui semblent à budget assez limité pour le moment. Enfin, on ne voit pas arriver de méga productions jeux vidéo Netflix, hein, on est plus dans une espèce de diversification manifestement des produits. Et puis alors, apparemment, il y en a qui ont carrément une longueur d'avance, puisque j'ai lu aussi qu'Elon Musk qui était présent sur place, qu'il a assisté à la conférence d'un éditeur, lui, enfin, qui était présent à la conférence d'un éditeur qui s'appelle Bethesda, parce que lui, il voit y compris un marché, en fait, du jeu vidéo à l'intérieur des voitures autonomes. Donc là, on voit que il y a y compris ceux qui ont deux longueurs d'avance. Bon, je sais pas ce qu'il faut forcément en déduire, mais en tout cas, bon, il y en a qui réfléchissent aussi, non seulement à la dématérialisation, au passage au cloud, etc., même au fait de pouvoir jouer de n'importe où jusque dans sa voiture.
C'est l'enjeu finalement, c'est un peu l'enjeu de tous ces acteurs depuis même 20 ans. Alors, pas sur la voiture, mais déjà au moment où Microsoft s'est lancé dans cette industrie du jeu vidéo, d'ailleurs c'est à peu près sa seule diversification propre réussie, c'est sa seule diversification dans le hardware, dans le matériel réussie. Le groupe gagne beaucoup d'argent aujourd'hui dans le jeu vidéo. À l'époque, Microsoft, son enjeu, c'était la guerre du salon, c'est-à-dire réussir à être le système d'exploitation de la maison, avec son fameux système d'exploitation Windows. Et Amael l'a mentionné, la voiture autonome, c'est le smartphone de demain. Donc tous ces acteurs, que ce soit Google, que ce soit Microsoft, que ce soit Apple, se battent aujourd'hui. Finalement, le jeu vidéo, c'est un petit peu le produit d'appel, c'est-à-dire que on attire le consommateur avec le jeu vidéo, et derrière, on peut lui proposer plein de choses. Et puis surtout, on opère, on en discutait tout à l'heure avec Sybil Veil, on en revient toujours au même point, c'est-à-dire contrôler l'ensemble de la chaîne de valeur. Et aujourd'hui, ce qui attire effectivement beaucoup et de plus en plus de le jeu vidéo, c'est plus simplement le geek de 25 ans ou de 40 ans comme Emmanuel. C'est une population qui est de plus en plus féminine, de plus en plus âgée. On joue ensemble, on joue dans le salon. Et donc, c'est bien ça dont il s'agit. C'est contrôler aujourd'hui le tuyau qui amènera les contenus divers et les services de demain.
Autre nouvel acteur, et non des moindres, Google, avec l'annonce de son nouveau service Stadia, quelques jours à peine donc avant cette édition de l'Electronics Entertainment Exposition 2019, avec une accroche forte, l'avenir du jeu vidéo, on en a déjà parlé, n'est pas dans une console, Emmanuel Paquette.
Oui, parce qu'en fait, l'idée de tous ces acteurs, c'est qu'ils ont aujourd'hui des infrastructures déployées dans le monde entier. Donc Microsoft a sa plateforme qui s'appelle Azure, qui aujourd'hui permet à des entreprises, par exemple, d'avoir leur messagerie hébergée ou d'avoir leur bureautique hébergée. Donc il y a des data centers, enfin des centres de données de Microsoft implantés un peu partout sur la planète. Google, c'est à peu près la même chose, ils ont des data centers partout sur la planète. Amazon, Apple, c'est exactement la même chose, puisque pour les mises à jour des iPhones, des iPads, il faut avoir des centres de données qui puissent permettre de télécharger très vite les mises à jour de toutes ces plateformes. Donc ils sont là, ils ont des capacités, et donc ces capacités-là, ils peuvent le faire pour distribuer des films, pour distribuer de la musique. Ils se disent pourquoi pas aujourd'hui distribuer aussi du jeu vidéo. Donc là, le problème, c'est de savoir qu'est-ce que vont faire les studios. Est-ce qu'ils vont être désintermédiés, c'est-à-dire est-ce que c'est Google qui va prendre la main, Microsoft va prendre la main, et eux, en fait, vont rester un peu à la traîne, sachant qu'aujourd'hui, ces gens-là, ils vendent quand même un jeu, ce qu'on appelle triple A, c'est-à-dire les gros blockbusters des jeux vidéo, ça se vend 70€ sur une console PlayStation ou Xbox. Demain, si c'est dans un abonnement à 10€ par mois, ils vont perdre beaucoup d'argent. Donc ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a une espèce de fenêtrage, une chronologie des médias qui est en train de se mettre en place dans le jeu vidéo, avec les premiers produits qui sortent en DVD, toujours, à un prix relativement élevé. Et quand ils sont beaucoup plus vieux, il y a un second marché, qui est celui de l'abonnement, dans lequel, dans des catalogues, on met des vieux jeux, en fait, hein, avec quelques petites nouveautés quand même pour attirer le chaland. Mais donc c'est ce qu'on voit aujourd'hui Netflix, beaucoup de fonds de catalogue, quelques nouveautés, ça sera probablement la même chose sur ces catalogues de jeux en ligne.
Amael Guitton.
Oui, la vraie question que je me pose, mais peut-être qu'Emmanuel a la réponse, c'est est-ce que Google à un moment donné va y compris se lancer dans une production autonome, parce qu'ils avaient quand même recruté une pointure pour leur studio à eux, qui est Jade Raymond, qui est une ancienne d'Ubisoft et d'Electronic Arts, et pour le moment on n'a pas le sentiment de voir venir grand chose ou qu'il y ait eu d'annonces particulières. Ils font plutôt des annonces, effectivement, sur un certain nombre de partenaires, qui sont y compris des gros studios, type Ubisoft précisément. Mais on les voit pas forcément se positionner sur de la production en tant que telle. Et au-delà, par ailleurs, de la question du modèle économique qui va se mettre en place, peut aussi se poser une question sur un terrain très différent, mais qui est celle de l'impact environnemental de tout ça. C'est une question qui commence un peu à émerger, parce que c'est vrai qu'on demande plutôt aujourd'hui aux géants du net d'avoir un peu plus de frugalité. En l'occurrence, le cloud gaming, ça repose effectivement sur de très gros data centers et sur l'utilisation des capacités computationnelles. Ça paraît pas très frugal quand même, quoi.
Bah, ça dépend, parce que c'est un peu comme Amazon quand ils ont mis en place leur système. Ils avaient déjà tous leurs serveurs et ils ont vu qu'ils avaient des surcapacités, donc ils ont dit autant les louer à des sociétés. Donc c'était AWS, Amazon Web Services.
Géant aujourd'hui du cloud.
Exactement.
Numéro un mondial.
Donc la question, c'est qu'une fois qu'on a déployé des serveurs et qu'ils sont utilisés en sous-capacité, on peut se dire utilisons la sous-capacité pour faire d'autres choses. Donc est-ce que c'est une frugalité? Non. Est-ce que c'est ne pas en rajouter, mais utiliser la pleine puissance de ce qui existe déjà? C'est probablement ce qu'ils essaient de faire, puisque les structures et les coûts, ils ont déjà encaissé, donc maintenant ils n'ont plus qu'à prendre les gains.
Gilles Fontaine.
On annonce quand même des jeux qui sont de plus en plus haute définition, donc de plus en plus gourmands aussi en ce qu'on appelle la bande passante sur les réseaux, c'est-à-dire que ça va prendre de plus en plus de place sur les réseaux de télécommunications. On parle de 120 images par seconde, je crois, l'offre Microsoft, par exemple. C'est-à-dire que pour les opérateurs télécoms, ça va devenir un vrai enjeu. Pour les gens qui...
Déjà, Netflix en était un considérable.
Voilà. Exactement, Netflix à certaines heures de la journée, c'est plus du tiers
aux États-Unis,
qui est occupé par Netflix. Donc les jeux vidéo, c'est encore plus fort que ça, encore plus gros. On parle de dizaines de gigas à l'heure pour certains jeux. C'est-à-dire que même sur un smartphone avec un usage illimité, l'opérateur va tirer la sonnette. Donc ça, ce sera un vrai enjeu pour les opérateurs télécoms. Et puis, je voudrais mentionner juste, c'est peut-être un petit clin d'œil et puis un petit cri aussi. On l'a toujours d'ailleurs, un champion français dans ce domaine qui s'appelle Blade, qui a levé beaucoup beaucoup d'argent et qui a pensé effectivement à un ordinateur ultra puissant pour les gamers dématérialisés, c'est-à-dire que toute la puissance est dans le réseau. Ils ont une offre qui est un peu chère, hein, 35€ par mois pour avoir accès à ce service, mais on aurait pu imaginer que les opérateurs télécoms français par exemple s'associent avec cet acteur-là plutôt que de se jeter dans les bras d'un Google ou d'un Microsoft. Et apparemment nos jeunes amis de Blade n'ont trouvé que le belge Proximus, qui est un opérateur, c'est bien, mais c'est quand même un petit marché. Et c'est vrai que on se plaint beaucoup toujours de ce poids écrasant des offres américaines, mais finalement on fait pas non plus grand chose pour s'en protéger et notamment pour soutenir nos champions ou futurs champions français.
Manuel.
Oui, non, c'est vrai. Ce que dit Gilles est exact. Après, c'est vrai que les investissements sont tellement massifs. Je reviens encore à l'infrastructure. C'est qu'il faut financer une infrastructure qui est coûteuse, avec ce que tu disais, de la bande passante qui est coûteuse aussi. Donc, c'est vrai qu'il faut avoir les reins solides. Et c'est vrai qu'un investisseur, s'il se lance dans cette course-là, parce que c'est une course à la taille, avoir le plus d'abonnés possible dans le plus de pays possible. Donc, ça veut dire investir énormément. Donc, c'est vrai qu'en termes de ressources, c'est aussi assez risqué pour un investisseur.
On n'a pas répondu à la question aussi, pourquoi Sony était absent pour terminer cette session du Club de la Presse numérique?
En tout cas, officiellement, de ce qu'ils disaient, c'était parce qu'ils expliquaient qu'ils n'étaient pas exactement prêts à faire des annonces sur la prochaine génération de consoles. Alors après, est-ce qu'il peut y avoir d'autres éléments plus tactiques? Bon, en tout cas, c'est vrai que ça a un peu étonné tout le monde, puisque je crois que c'était la première fois depuis le début même de la conférence qu'ils n'y étaient pas. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'ils l'ont justifié.
Un des grands acteurs, donc absent à ce sujet. Merci infiniment à tous les trois d'avoir été dans cette émission. On en reste là pour ce soir. Pour aller plus loin sur ces sujets, vous pouvez consulter articles, ouvrages et références sur Twitter au mot-clé Soft Power et vous abonner, je l'ai dit, au podcast de l'émission sur notre site France Culture, sur iTunes ou encore sur l'application podcast de votre smartphone Soft Power. Il est 20h28, pratiquement en direct sur France Culture. Dans quelques minutes, vous retrouverez Carbone 14, le magazine de l'archéologie de Vincent Charpentier, comme chaque dimanche soir. En attendant, merci à tous les trois. Bonne soirée à l'écoute de notre chaîne et bonne fin de week-end.